Là, je vous dis bonsoir à tous, en particulier aux personnes, aux nouveaux visages qui sont dans notre assemblée. Donc ce soir, nous allons découvrir une nouvelle figure spirituelle très attachante, hein, celle de Saint François de Sales, donc à cheval sur le 16e et le 17e siècle. Je commence par quelques éléments biographiques, hein, comme d'habitude, pour vous situer rapidement le contexte dans lequel va évoluer François de Sales. Et puis je vous présenterai ses deux œuvres principales. On essaiera d'en voir des clés de lecture à l'aide de quelques extraits. Donc François de Sales va naître en 1567, hein, dans une noble famille de Savoie. Et donc sa maman n'a que 14 ans à sa naissance. Et il est l'aîné de 5 frères et 2 sœurs. Un petit peu moins que Thérèse d'Avila, hein, si vous vous souvenez la semaine dernière. C'est déjà une belle famille. Et donc son père, le seigneur de Boisy, le destine à une haute carrière dans la magistrature. Et donc c'est par obéissance à son père que François de Sales va faire des études de droit, brillantes d'ailleurs. Mais pour obéir à son propre penchant, il va parallèlement faire des études de théologie. Ce qui fait qu'il va finalement être à la fois docteur en droit civil et en droit ecclésiastique. Et au cours de ces années d'études, qu'il passe en partie à Paris, il va traverser un moment de crise spirituelle profonde, au point que pendant plusieurs semaines, il ne peut quasiment plus ni manger ni dormir. Il doute de son salut. Il doute de la prédestination de Dieu à son égard. C'est évidemment une question théologique très débattue à l'époque. Et donc, pendant plusieurs semaines, François est si tourmenté qu'il ne peut plus rien faire, plus manger ni dormir. Et donc, au comble de l'épreuve, il va se rendre dans l'église des Dominicains à Paris et il va faire cette prière, donc, qui est citée dans son procès de canonisation. « Quoi qu'il advienne, Seigneur, toi qui détiens tout entre tes mains et dont les voies sont justice et vérité, quoi que tu aies établi à mon égard, toi qui es toujours un juge équitable et un père miséricordieux, je t'aimerai, Seigneur. Je t'aimerai, ô mon Dieu, j'espérerai toujours en ta miséricorde et je répéterai toujours tes louanges. Ô Seigneur Jésus, tu seras toujours mon espérance et mon salut dans la terre des vivants. » Donc vous voyez, une remise complète de lui-même, hein, au-delà de la question de son salut personnel, hein, qui le tourmente. Il fait cet acte d'abandon, cette remise de tout lui-même entre les mains de Dieu, en abandonnant cette question à Dieu et en disant « Mais quoi que tu aies décidé à mon égard, moi, je t'aimerai toujours. » Et en fait, il va trouver la paix. Hein, ça va être vraiment la sortie de son tourment, de son épreuve. Et il trouve la paix dans cette gratuité de l'amour de Dieu. Et j'insiste là-dessus, hein, sur cette épreuve de jeunesse, parce qu'on va voir que c'est une clé, hein, de sa direction spirituelle et de sa théologie. Aimer Dieu sans rien attendre de retour. Donc ne plus se demander ce que Dieu fera de moi, ce qu'il a décidé pour moi, mais l'aimer gratuitement, simplement, indépendamment des dons qu'il me fait ou non. Donc c'est une première clé, mais nous y reviendrons. C'est vraiment, je crois, un des secrets, hein, de la vie de François de Sales. Donc docteur en droit ecclésiastique et civil, François de Sales va être admis au Sénat de Chambéry, on est en 1592, et donc son père, très fier, le voit déjà sénateur et marié avec une riche épouse qu'il lui a déjà choisie. Mais voilà que François, lui, veut se destiner au sacerdoce. Bon. Opposition paternelle, mais par bonheur, peu après, une haute dignité ecclésiastique restée vacante est offerte à monsieur de Boisy pour son fils. Donc c'est ce qui va finalement lui arracher son consentement, c'est que dans son orgueil paternel, il est secrètement flatté de cette haute dignité ecclésiastique qui lui est proposée. Et donc il va donner son consentement pour que François soit promu à cette dignité de prévôt du chapitre cathédral de Genève. Et donc François est ordonné prêtre, hein, dans son petit village natal à Torrens. Mais alors voilà que l'année suivante, hein, malgré une nouvelle opposition de son papa, il va partir pour la région du Chablais, hein, où les Genevois et les Bernois avaient imposé par force le culte calviniste. Hein, on est en pleine expansion du culte calviniste. Et en compagnie d'un cousin, hein, Louis de Sales, eh bien, les voilà tous les deux, ces deux jeunes, qui se font missionnaires itinérants et qui vont, à force de douceur, de patience, d'éloquence, d'arguments, en distribuant des copies, des sermons que prononce François, eh bien, ils vont réussir à provoquer un premier mouvement de conversion, hein, de retour dans l'élite de la société. Et au bout de quelques années, eh bien, c'est cette région du Chablais qui a en grande partie fait retour au catholicisme, hein, suite à la mission de ces deux jeunes, dont François, qui est donc jeune prêtre à l'époque. Et puis à la mort de Monseigneur de Granier en 1602, eh bien François de Sales lui succède avec le titre d'évêque et prince de Genève. Donc François a 35 ans, hein, et il est évêque de Genève, mais il est en exil à Annecy, hein, puisque comme ses prédécesseurs, il doit vivre à Annecy, puisque les calvinistes ont imposé la réforme à Genève et en ont chassé l'évêque, hein, depuis 1533. Et donc en évêque, en vrai pasteur d'âme, hein, eh bien, François va visiter toutes les paroisses de son vaste diocèse. Hein, c'est un diocèse assez pauvre. Il confesse, il prêche, il s'intéresse à tous, avec une simplicité, une douceur qui lui gagne la faveur aussi bien des pauvres que des riches. Hein, il conquiert les cœurs. Il est à l'aise aussi bien avec les malades, les petits, les prisonniers, qu'avec les grands de ce monde. Et au sujet de ces années de visite pastorale, hein, qui réjouissent son cœur, parce qu'on le reverra, il a vraiment un cœur de pasteur. Hein, il est amoureux, zélé pour les âmes. Hein. Eh bien, François écrit ceci, hein, « Dieu, je l'ai rencontré dans toute sa douceur et sa délicatesse, dont nos plus hautes et rudes montagnes, hein, il pense au paysage qu'il a tant de fois traversé, donc dans nos plus hautes et rudes montagnes où de nombreuses âmes simples l'aimaient et l'adoraient en toute vérité et sincérité. Et les chevreuils et les chamois sautillaient ici et là entre les glaciers terrifiants pour chanter ses louanges. » Il a une âme de poète, François de Sales, hein, on le reverra. Il utilise très fréquemment des images tirées du monde végétal, animal, hein, donc une floraison d'oiseaux, d'abeilles, de poissons, de petites fleurs dans son œuvre, toujours pour illustrer des réalités de la vie spirituelle. Hein. Donc il est à la fois, voyez, tout à fait émerveillé devant la beauté de la nature et les chamois et les glaciers et les montagnes, et en même temps il est, vous voyez, même avec cette âme simple et proche des gens, eh bien il est tout autant admiré par les grands, hein, jusqu'au pape, qui vont louer ses qualités aussi bien de conseiller spirituel que politique, sans parler de sa brillante culture et de la sainteté de sa vie qui est déjà rayonnante, hein. Donc parmi ces grands on peut citer Clément VIII, bien encore le pape Léon XI, hein, qui aurait voulu le créer cardinal, mais aussi Henri IV, Vincent de Paul, Bellarmin. Et François se trouve engagé dans la réalisation, dans la mise en œuvre, hein, des idéaux du Concile de Trente. Il va participer à la controverse et au dialogue avec les protestants. Et je cite ça aussi en le soulignant, parce que c'est à travers toute cette mission de dialogue, de conciliation, de médiation, de relations personnelles, hein, bien que l'âme de François de Sales va petit à petit acquérir cette finesse, cette douceur, cette qualité d'artisan de paix. On va le surnommer l'auteur de la paix. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a le don de mettre la paix dans les âmes et entre les âmes. Donc il est engagé dans ces grandes missions, querelles, controverses, situations de son temps, mais en même temps il reste surtout un guide des âmes. Et c'est justement cette charge de direction, d'accompagnement spirituel, de direction des âmes qui vont finalement nous valoir les œuvres, hein, les œuvres qu'il va écrire. Donc c'est par exemple de sa rencontre avec une jeune femme, Madame de Charmoisie, qu'il va tirer l'inspiration pour écrire l'introduction à la vie dévote. Au départ, il pense écrire ça pour cette personne qu'il dirige, qu'il accompagne, et puis finalement, voyant que les conseils spirituels qu'il donne pourraient être utiles à beaucoup d'autres, il va en tirer ce livre qu'il va donc adresser à une personne imaginaire, entre guillemets, hein, appelée Philothée. Philothée, c'est qui aime Dieu, amoureux de Dieu. Hein. Donc à partir de ces conseils spirituels qui étaient pour une personne, il en tire un recueil, un traité adressé à Philothée, donc à toute âme qui veut aimer Dieu. Hein, nous allons aussi en reparler. Et puis avec une autre personne dont il fait la connaissance, avec la baronne Jeanne-Françoise de Chantal, qui est à l'époque une jeune veuve de 28 ans, mère de 4 enfants, hein, bien il va fonder en 1610 une nouvelle famille religieuse, la Visitation. Pourquoi ce nom ? Parce que dans son esprit, c'est un ordre qui doit être apostolique, à l'image de Marie visitant sa cousine Élisabeth. Hein, on connaît cet épisode de la Visitation dans l'évangile de Luc. Eh bien, François imagine des religieuses allant visiter les malades dans le monde, hein, donc se mettant à leur service et allant les réconforter, comme Marie visitant Élisabeth et se mettant à son service. Mais cette présence de religieuses dans les rues de la ville, et même dans les taudis, hein, auprès des plus pauvres, eh bien, va être en fait très mal vue par les autorités ecclésiastiques de l'époque. Hein. François avait ce projet prophétique, peut-être très en avance sur son temps, hein, qui n'a pas été reçu. On est en pleine contre-réforme. Et donc on demande à François d'abandonner cette orientation apostolique de la Visitation, et donc la clôture papale va être progressivement imposée, et François se soumet à accueillir ça, mais ça va tout à fait à l'encontre du projet qu'il portait, hein. Et ça aussi c'est important, on va voir que François c'est quelqu'un qui a une très haute idée de la sainteté dans le monde, hein. Alors même si cette Visitation qu'il voulait apostolique, eh bien, se transforme en ordre contemplatif cloîtré, ben on peut malgré tout souligner un point, une caractéristique, hein, que la Visitation va garder, qui est peut-être pas unique, je n'en sais rien, mais en tout cas qui n'est pas courante, hein, dans les autres ordres de l'époque. Eh bien, c'est un ordre qui va vraiment s'efforcer d'accueillir toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions. Ce qui fait qu'on y admet des femmes âgées, des veuves, des personnes malades ou handicapées qui peuvent aussi être acceptées à la Visitation. Vous voyez, toujours ce souci de tous, en fait, et de permettre à chacun de vivre sa vocation, sa sainteté, quelle que soit sa condition familiale, culturelle, son état de santé, ses dons intellectuels, etc. Voilà, François va mourir à 55 ans, on est en 1622, hein, d'une attaque d'apoplexie. Et quand il va être proclamé docteur de l'Église par Pie IX en 1877, eh bien d'autres, après cette proclamation, préciseront « docteur de l'amour divin et de la douceur évangélique ». Vous voyez, c'est ça qu'on retient en fait, hein, de François de Sales, l'amour divin et la douceur évangélique. Donc je vous présente rapidement ces deux œuvres principales, même si on connaît d'autres, on a encore beaucoup de lettres d'entretien spirituel, mais donc l'introduction à la vie dévote, c'est ce qui sera abrégé IVD dans la feuille de route, hein, dans les extraits, et puis le traité de l'amour de Dieu, TAD. Donc je vous le disais, dans l'introduction à la vie dévote, François de Sales s'adresse à Philothée, c'est-à-dire à toute âme qui veut aimer Dieu. Et il va notamment orienter son propos, hein, dans un sens qui, à l'époque, est assez révolutionnaire, même s'il n'est pas le premier à faire à aller dans ce sens, mais en tout cas, il le fait beaucoup mieux, beaucoup plus finement que ses devanciers. Il propose à Philothée, hein, à toute âme chrétienne, croyante, d'appartenir pleinement à Dieu, tout en vivant dans le monde, donc selon son état de vie, en remplissant les devoirs de son propre état. François écrit lui-même dans la préface « Mon intention est d'instruire ceux qui vivent dans les villes, en ménage, à la cour, etc. » Et quand Pie IX va le proclamer docteur de l'Église, eh bien, il va insister justement sur l'élargissement de cet appel à la perfection chrétienne, à la sainteté. Je vous cite un passage du bref « Dives in Misericordia » donc de Pie IX, qui le proclamait docteur de l'Église, et qui disait « Grâce à François de Sales, la véritable piété a pénétré jusqu'au trône des rois, dans la tente des chefs des armées, dans le prétoire des juges, dans les bureaux, dans les boutiques et même dans les cabanes de pasteurs. » Donc la sainteté pour tous. Alors nous, on est plus habitués à ça, évidemment, à notre époque, et puis depuis Vatican II, qui rappelle cet appel universel à la sainteté pour tout chrétien. Mais à l'époque de François de Sales, c'est révolutionnaire. Donc c'est un appel adressé aux laïcs, à être saints, non pas malgré leurs conditions de laïcs, en disant « bon bah tant pis, je suis marié, mais je vais m'efforcer de malgré tout devenir quand même saint en essayant de vivre à peu près comme un moine. Non, un appel à être saint dans l'état dans lequel je suis, pas malgré cet état, mais dans mon état de vie et par mon devoir d'état. Donc sanctification du quotidien, dans l'accomplissement fervent, joyeux, du devoir d'état. Et donc le livre s'appelle « Introduction à la vie dévote ». Alors le mot ici, « introduction », est évidemment à prendre au sens, non pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous faire une introduction à cette conférence, comme une petite présentation initiale, non. Introduction, introduire, ça veut dire faire entrer dans. Donc « introduction à la vie dévote », ça nous dit bien le propos qui est celui de l'auteur, faire entrer les âmes dans cette vie dévote, comme on fait entrer quelqu'un, comme on introduit quelqu'un dans une maison par exemple. Donc François veut présenter un chemin à parcourir pour qu'on puisse entrer. Et entrer où? Dans ce qu'il appelle la vie dévote. Alors là aussi ça demande quelques précisions, parce que pour nous vie dévote, c'est un peu vieillot, la dévotion, on pense tout de suite à quelque chose de soit des pratiques de dévotion, des pratiques assez extérieures, voire même superstitieuses dans le pire des cas, ou bien la vie dévote, on a tout de suite l'idée de la petite bigote, vous voyez, quelque chose d'un petit peu démodé, voire même un petit peu ridicule. Mais qu'est-ce que c'est que la vie dévote? Pour François de Sales, c'est une vie dévouée à Dieu. Donc pour lui, c'est la charité parfaite. C'est la perfection de la charité. C'est la charité vivante. C'est l'amour de Dieu, vécu le plus qu'il est possible. Donc vous voyez, ça n'a rien de désuet, de ridicule, d'axé sur des pratiques, de répétitions, de litanie ou de pratiques extérieures. Non, c'est vraiment quand il parle de dévotion, c'est à prendre au sens le plus fort de la charité parfaite, l'union à Dieu. Être dévoué, être dévot, c'est être dévoué, voué à Dieu, lui appartenir sans réserve. Alors je vais vous lire ce premier extrait que vous avez. Vous allez voir, j'ai choisi des extraits, on va beaucoup parler d'oiseaux ce soir. J'aurais pu prendre, parce qu'il y a tellement d'exemples chez François de Sales, qu'on aurait pu prendre les fleurs ou les abeilles, mais j'ai choisi les oiseaux. Parce que je pense qu'il y en a peut-être encore plus d'images tirées du monde des oiseaux, et je pense que ce n'est pas anodin. J'essaierai de vous donner une interprétation. Donc voilà ce qu'il dit sur la vraie dévotion, au sens que je viens de vous donner. Les autruches ne volent jamais. Les poules volent, pesamment toutefois, bassement et rarement. Je ne sais pas si vous avez vu une poule voler, ça ne va pas très haut, pas très loin. Mais les aigles, les colombes, les arondelles, hein, les hirondelles, volent souvent, vitement et hautement. Application spirituelle. Ainsi, les pêcheurs ne volent point en Dieu, mais font toute leur course en la terre et pour la terre. Ins, ça veut dire mais. Hein. J'ai laissé l'ancien français tel qu'il est imprimé dans les œuvres complètes, mais je moderniserai un petit peu la lecture parfois. Donc les pêcheurs ne volent point, mais font toute leur course en la terre, pour la terre. Hein, c'est les fameux habitants de la terre dont parle l'Apocalypse. Hein. Les gens de bien, donc c'est les autruches hein, qui ne volent jamais. Les gens de bien qui n'ont pas encore atteint la dévotion, c'est les poules. Hein. C'est ceux qui volent en Dieu par leurs bonnes actions, mais rarement, lentement et pesamment. Mais de temps en temps, on fait des bonnes actions, alors on soulève un petit peu et puis on retombe. Et les personnes dévotes, donc c'est les aigles, les colombes et tous les oiseaux, ce sont ceux qui volent en Dieu fréquemment, promptement et hautement. Bref, la dévotion n'est autre chose qu'une agilité et vivacité spirituelle par le moyen de laquelle la charité fait ses actions en nous, ou nous par elle, promptement et affectionnément. Donc vous voyez, cette dévotion qui nous paraît parfois un peu désuète ou surannée, en fait c'est quelque chose de très désirable, parce que c'est pour François, c'est la clé finalement de la joie chrétienne, hein, du bonheur qu'on a à vivre dans la charité. C'est ce qui va rendre prompt, léger, passionné, hein, notre vie d'union à Dieu. Alors je reparlerai un peu plus tard hein, de l'introduction à la vie dévote. Je vous présente pour l'instant la deuxième œuvre principale de François, donc le traité de l'amour de Dieu. Alors le premier ouvrage était adressé à Philothée, l'âme qui aime Dieu. Eh bien le second ouvrage, le traité de l'amour de Dieu, est adressé à Théotime. Théotime, celui qui craint Dieu, qui honore Dieu. Alors Théotime, autant Philothée, c'est l'âme un peu commençante hein, qui doit parcourir tout ce chemin d'amour et de sanctification dans son état. Théotime, c'est plutôt le chrétien adulte, spirituellement mûr. Donc François va écrire ce traité de l'amour de Dieu quelques années après hein, de l'introduction à la vie dévote. Donc c'est un traité beaucoup plus complet, hein, plus mystique, plus élevé. Dans sa spiritualité, une leçon plus complexe et qui repose en particulier sur une vision très belle de ce qu'est l'homme, hein, une anthropologie très positive. François écrit « L'homme est la perfection de l'univers. L'esprit est la perfection de l'homme. L'amour est la perfection de l'esprit. » Et la charité est la perfection de l'amour. Donc l'homme est la perfection de l'univers, première clé. Et deuxième clé, l'homme, bien que pécheur, hein, porte en lui une inclination à aimer Dieu. Hein, et elle l'aimait par-dessus toute chose. Donc vous voyez, une anthropologie très positive, pas du tout pessimiste, pas du tout désespérée sur la nature humaine. Et François va dire, jusque dans son péché, il y a quelque chose qui est gravé dans le cœur de l'homme, qui demeure, hein, même si la volonté est blessée, même si le péché nous attache à la terre, il y a une inclination indéracinable du cœur de l'homme à aimer Dieu, quelque chose qui le porte vers Dieu. Et Dieu lui-même va attirer l'homme à lui. Avec des liens d'amour, ça c'est aussi une autre caractéristique chez François de Sales. Dieu ne s'impose jamais, on va le revoir. De même que le chrétien lui-même doit tout vivre par amour et non par force, c'est un extrait d'une lettre qu'il écrit à Jeanne de Chantal, bien, Dieu c'est pareil, Dieu ne s'impose jamais, mais il va attirer avec la violence de l'amour, avec la douceur de l'amour. Il va attirer l'homme à lui par les liens de l'amour. François écrit dans le traité de l'amour de Dieu, car l'amour n'a point de forçat ni d'esclave. Dieu ne veut pas nous, vous voyez, nous faire de nous des esclaves, des gens qui l'aiment malgré eux. L'amour n'a point de forçat ni d'esclave, mais il réduit toute chose à son obéissance avec une force si délicieuse que comme rien n'est si fort que l'amour, aussi rien n'est si aimable que sa force. Donc vous voyez, Dieu ne s'impose pas, il ne s'impose que par son amour finalement, qui n'est pas, voyez, qui ne s'impose pas à la manière des hommes, mais qui s'impose par la force même de l'amour. Et la force de l'amour, c'est à la fois sa douceur, qui ne va pas supprimer la liberté de la personne, mais au contraire la solliciter dans ce qu'elle porte en elle-même d'inclination vers Dieu. Donc il y a dans ce traité de l'amour de Dieu une théologie très très profonde sur la coopération entre l'homme et Dieu, la liberté et la grâce. Le but de la vie de l'homme étant vraiment d'appartenir à Dieu, de chercher en toute chose à plaire à Dieu. Donc dans une lettre à Jeanne de Chantal, en 1604, il écrit ceci. « Voici la règle générale de notre obéissance, écrite en grosses lettres, capitales. Il faut tout faire par amour et rien par force. » Il faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance. Je vous laisse l'esprit de liberté. Donc il écrit ça à Jeanne qu'il dirige, dont il est le directeur spirituel. Donc il dit, je vous laisse l'esprit de liberté, non pas celui qui exclut l'obéissance. Vous voyez, c'est pas une liberté laxiste ou une liberté d'indépendance de faire ce que je veux comme je veux. Non, je vous laisse l'esprit de liberté, non pas celui qui exclut l'obéissance, car c'est là la liberté de la chair, mais celui qui exclut la contrainte et le scrupule ou l'empressement. Vous voyez, donc diriger les âmes de telle sorte que ces âmes puissent se mouvoir librement dans l'amour, non pas par crainte d'un châtiment, non pas par crainte de la désobéissance, non pas par contrainte ou par scrupule, mais non plus sans aucun laxisme. Vous voyez, c'est une liberté finalement qui est extrêmement déterminée, extrêmement exigeante, la liberté de dire oui à l'amour et de prendre tous les moyens, tous les chemins possibles pour répondre à l'amour. Donc François de Sales est vraiment salué comme un connaisseur profond du cœur humain, du fonctionnement du cœur humain, et quelqu'un qui sait mener les âmes avec douceur, mais non pas cette douceur un peu mièvre, qu'on peut parfois déformer, travestir, qui n'a plus rien à voir avec la douceur de François de Sales. Mais c'est une douceur au sens où il veut que l'âme se meuve elle-même dans l'amour, que je ne fasse pas quelque chose par contrainte parce que le directeur me le demande, mais que je le choisisse librement pour plaire à Dieu. Et pour faire ça, dans sa direction des âmes, François donc s'appuie, compte sur cette nostalgie de Dieu qui est inscrite dans le cœur de l'homme. Même pécheur, l'âme a comme une sorte de sentiment, de certitude, qu'elle ne trouvera finalement son vrai bonheur, son vrai épanouissement qu'en Dieu, même si j'en vis très mal. Et donc toute sa direction des âmes est fondée là-dessus. Donc je retiens trois clés, en résumé de ce que je viens de vous dire rapidement. Trois clés de la direction spirituelle de François de Sales, et puis on va y revenir en lisant ensemble quelques extraits. La première clé, c'est vraiment l'appel à la charité parfaite, quel que soit l'état de vie. Et encore une fois, non pas malgré mon état de vie, mais dans cet état de vie-là. La deuxième clé, donc tout par amour et rien par force. On va le voir dans les conseils qu'il peut donner. Puis la troisième clé, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, hein, mais je l'ai rapidement évoquée, c'est le fait d'aimer Dieu pour lui-même, gratuitement. Hein. Je vous disais, c'est depuis cette épreuve, ce tourment qu'il a traversé dans sa jeunesse, et qui l'a finalement conduit à s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu en disant « Mais quoi que tu aies résolu pour moi, quoi qu'il en soit, je t'aimerai. » Donc gratuitement, pour toi, et non pas pour les dons que j'espère, même pas pour le salut que j'espère de ta grâce. Donc la gratuité d'un Dieu aimé pour lui-même, et non pas pour notre propre avantage spirituel ou pour la joie que nous avons à l'aimer. Donc je vais maintenant reprendre avec vous c'est un peu ces trois clés, hein, en les illustrant par quelques extraits de ces deux œuvres, hein, que je vous ai présentées. Donc la dévotion en chaque état de vie. Peut-être une phrase toute simple, mais qui résume vraiment bien cette idée. Hein. Soyez ce que vous êtes et soyez-le bien. Vous êtes marié ? Ne rêvez pas d'être moine ou d'être évêque. Soyez-le, mais soyez-le bien. Voilà, ça va être ça, l'œuvre de la dévotion. Tu es évêque ? Sois-le. Ne rêve pas d'être moine dans la solitude. Sois évêque et sois-le bien. Tu es soldat, tu es banquier, sois-le le mieux que tu peux. Voilà la clé. Soyez ce que vous êtes et soyez-le bien. Alors dans la préface que je lis avec vous maintenant, vous l'avez, hein, François dit cela. Ceux qui ont traité de la dévotion ont presque tous regardé l'instruction des personnes fort retirées du commerce du monde. On pense par exemple, souvenez-vous ce qu'on a vu pour Thérèse d'Avila, elle s'adressait à ses sœurs carmélites. Hein, c'est une toute autre perspective. Là, François s'adresse à nous. Hein. Prêtres, laïcs, religieux, évêques, riches, pauvres, c'est ça son propos. Donc ceux qui ont traité de la dévotion ont presque tous regardé l'instruction des personnes fort retirées du commerce du monde, ou au moins ont enseigné une sorte de dévotion qui conduit à cette entière retraite. Autrement dit, tu n'es pas religieux, c'est pas de chance pour toi, tu es marié, mais je vais quand même t'enseigner les voies pour faire comme si tu étais religieux tout en étant marié. Ah ben non, c'est pas ça. François de Sales, c'est pas ça. Mon intention est d'instruire ceux qui vivent dans les villes, en ménage, dans la cour, et qui, par leurs conditions, sont obligés de faire une vie commune quant à l'extérieur, lesquels, bien souvent, sous le prétexte d'une prétendue impossibilité, ne veulent seulement pas penser à l'entreprise de la vie dévote. Donc c'est pas pour moi, hein, j'ai raté ma vocation. De toute façon, je suis dans le monde, il faut que je m'occupe de mon commerce. C'est pas la peine de penser à... ne vivre que pour Dieu. Moi, je vis pour mon commerce. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. Eh ben non, c'est une erreur. Donc, ceux qui ne veulent même pas penser à l'entreprise de la vie dévote, leur étant avis que nul homme ne doit prétendre à la palme de la piété chrétienne, tandis qu'il vit dans la presse, la pression des affaires temporelles. Donc encore une fois, François, on dit parfois que François est que c'est révolutionnaire et que c'est le premier à faire ça. Il n'est pas vraiment le premier. Hein. D'autres avaient cette même inspiration avant lui. Mais c'est lui qui va le plus loin, hein, et qui va le présenter de la manière la plus détaillée. Donner les conseils les plus concrets et tracer vraiment un véritable programme de sainteté dans la sanctification de mon état de vie, de mes affaires, de mon devoir d'État, de ma vacation. Comme dit François de Sales, mon office, pas seulement ma vocation, mais mon travail, mon occupation. Alors, je vous lis l'extrait suivant. François de Sales s'appuie sur ce qu'on voit dans la Genèse. Dieu commanda à la création, aux plantes, de porter leurs fruits, chacune selon son espèce. Vous vous souvenez, dans ce récit, chacun selon son espèce, les poissons selon leur espèce, les arbres selon leur espèce, etc. Ainsi commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son Église, qu'ils produisent des fruits de dévotion, chacun selon sa qualité et vacation, occupation. La dévotion doit être différemment exercée par le gentilhomme, par l'artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée. Et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. Donc vous voyez une direction en fait extrêmement personnalisée, hein, qui fait que vraiment François va chercher le chemin qui convienne à chaque âme, chaque personne, chaque chrétien, pour se sanctifier là où il en est, hein. Pas seulement selon son état de vie, mais selon ses forces, selon son tempérament, selon les préoccupations, les événements qu'il traverse, etc. Je vous en prie, Philothée, serait-il à propos que l'évêque voulût être solitaire comme les chartreux ? Et si les mariés ne voulaient rien amasser non plus que les capucins ? On a parfois encore des erreurs comme ça, hein, on rêve d'une sainteté, parce qu'on a un idéal de sainteté, alors un couple chrétien, une famille chrétienne qui va rêver finalement d'une sainteté en utilisant des moyens qui ne sont finalement pas les moyens pleinement appropriés à ceux de la vie de la famille. François de Sales dit non. Si les mariés ne voulaient rien amasser non plus que les capucins. Et si l'artisan était tout le jour à l'église, comme le religieux, hein, et le religieux toujours exposé à toutes sortes de rencontres pour le service du prochain, comme l'évêque. Ben oui, l'évêque, lui, doit se dévouer aux âmes, être pasteur des âmes. Cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée et insupportable ? Philothée, la dévotion ne gâte rien quand elle est vraie, mais elle perfectionne tout, et lorsqu'elle se rend contraire à la légitime vocation de quelqu'un, elle est sans aucun doute fausse. L'exemple typique, parce qu'on entend beaucoup ça aujourd'hui, hein, par exemple des mamans, des mères de famille qui se donnent à leur famille, qui n'ont pas le temps de faire des retraites, d'aller prier autant qu'elles le voudraient et qui s'en désolent. Eh bien, François est un merveilleux directeur spirituel, hein, pour conduire, pour rassurer, pour apaiser, hein, et pour montrer qu'on ne doit pas chercher une vie chrétienne qui soit autre que celle qui nous est donnée par notre devoir d'État. Si la dévotion, donc les pratiques, le chemin que je prends, est contraire à la légitime vocation de quelqu'un, hein, si elle empêche cette maman de vivre sa vie familiale et de se dévouer comme elle le devrait à son mari et à ses enfants, eh bien, saint François, il est sévère. C'est une dévotion fausse. Bien sûr qu'une maman, une mère de famille doit prier, trouver des temps pour prier, mais si ça la détourne de son devoir familial, alors ça n'est pas la vraie dévotion dont parle saint François de Sales. Petit exemple, l'abeille. L'abeille, dit Aristote, tire son miel des fleurs sans les intéresser, sans les abîmer, les laissant entières et fraîches comme elle les a trouvées. Mais la vraie dévotion fait encore mieux, car non seulement elle ne gâte nulle sorte de vacation ni d'affaires, mais au contraire, elle les orne et embellit. Donc par cette vraie dévotion, hein, que propose François de Sales, eh bien pour ceux qui sont mariés, le soin de la famille en est rendu paisible, l'amour du mari et de la femme plus sincère, le service du prince plus fidèle, et toutes sortes d'occupations plus suaves et aimables. C'est une erreur et même une hérésie de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Vous voyez, très 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 actuel, hein, très actuel. Alors, évidemment, la question, hein, c'est comment François de Sales va-t-il s'y prendre pour faire entrer chaque Philothée dans cette vie dévote qui vient comme embellir, hein, même parfaire, couronner l'état de vie dans laquelle elle est. Donc il va lui-même donner dans sa préface, hein, le plan de son traité, hein, le plan du livre, 5 parties. Et donc il dit ceci, hein, dans la première partie, il va essayer de convertir le simple désir en une entière résolution. Donc pour lui, c'est le fondement, en fait, hein, de ce chemin de sainteté, convertir le simple désir de Philothée en une entière résolution. entre autres choses, hein, mais vous lirez vous-même si ça vous intéresse, hein, moi je ne suis là que pour vous donner envie de lire les œuvres, c'est là qu'il, cette première partie, c'est là qu'il va insister sur la nécessité d'un directeur spirituel choisi, dit-il, entre 10 000. Il dit Thérèse d'Avila recommandait de le choisir entre 1 000, et bien moi je dis entre 10 000. Vous voyez, ils se font de la concurrence. Donc le but étant vraiment, vous voyez, d'affermir l'âme dans sa résolution. On a lu ça chez Thérèse d'Avila, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, la nécessité avant d'entrer dans la vie d'oraison, d'avoir une détermination ferme et inébranlable, hein. Ben là, c'est la même chose pour l'âme qui veut s'engager dans la vie dévote. Donc il va donner des quantités de moyens, encourager à se préparer à faire une confession générale, donner tout un itinéraire de méditation, qui doivent finalement déboucher sur ce qu'il appelle une solide protestation, donc une résolution ferme de s'engager sur ce chemin. Cela fait, pour la conduire plus avant, donc deuxième partie, je lui montre deux grands moyens de s'unir de plus en plus à la Divine Majesté. L'usage des sacrements, par lesquels le bon Dieu vient à nous, et la sainte oraison, par laquelle il nous tire à soi. Donc ça, c'est la deuxième partie. Vous voyez, c'est intéressant, hein ? Les sacrements, donc le chemin par lesquels Dieu vient à nous, et l'oraison, le chemin par lequel il nous attire à lui. Donc les deux grands moyens pour que l'union entre Dieu et Philothée grandisse, hein, les sacrements et l'oraison. Alors je ne détaillerai pas, on ne peut pas tout faire, hein, donc je ne détaillerai pas ce qu'il dit sur l'oraison, parce qu'on en a quand même parlé la semaine dernière avec Thérèse d'Avila. Dans la troisième partie, je lui fais voir comment elle se doit exercer en plusieurs vertus plus propres à son avancement. Alors il va regarder successivement la patience, l'humilité, la douceur. Et quand il dit douceur, c'est douceur envers le prochain, mais aussi douceur envers soi-même, et même douceur envers nos affaires. Vous voyez, s'occuper de ce qu'on a à faire avec soin, mais sans empressement ni souci. Et puis l'obéissance, la chasteté, la pauvreté en esprit, les vraies amitiés. Tout ce qui relève de la mortification extérieure, hein, vous avez plusieurs chapitres sur la question des conversations, la bienséance des habits, les passe-temps et les loisirs qui sont louables et ceux qui sont défendus, hein, l'honnêteté et particulièrement la manière de parler à propos des personnes, hein, la question de la médisance, etc. Donc il y a une très très belle théologie des vertus chez François de Sales, très équilibré, vous voyez là encore, qui n'a rien de formel, hein, c'est pas un édifice qui est déjà, construit d'avance et qu'on vient plaquer sur quelqu'un, mais François va inviter chaque personne à cultiver les vertus qui seront les plus utiles là où elle est et selon ce qu'elle est. Donc les vertus qui me seront les plus utiles pour mon avancement à moi, et qui ne sont pas les mêmes que les vertus qui seront les plus utiles pour mon voisin. Donc une très très belle théologie des vertus, très très sensée, hein, très équilibrée aussi. Et je vous en donne quelques clés. Hein. François de Sales préfère toujours les vertus qu'on pourrait dire ordinaires et communes, c'est-à-dire celles dont la nécessité est quotidienne. Alors, parmi ces vertus, il va justement placer l'oraison, la dévotion, puis l'humilité, la douceur, la patience. Donc, des vertus dont l'usage est le plus fréquemment nécessaire, hein, plus fréquemment sollicité, plutôt que des vertus qu'on a à exercer que rarement. Donc, il s'intéresse surtout aux vertus quotidiennes. Et plus spécifiquement encore, donc aux vertus personnalisé selon la nécessité de chaque état de vie. Bah, si vous êtes banquier, vous avez tout intérêt à cultiver tout spécialement la vertu d'honnêteté. Si vous êtes instituteur, et ben vous devrez faire plus attention peut-être à la douceur, à la patience, à l'égard des enfants, etc. Donc vous voyez, rien n'est fait d'avance. Hein. Mais chacun doit discerner les vertus qui lui sont le plus profitables, non seulement dans son occupation humaine, mais pour son profit spirituel. Une autre clé, c'est que François de Sales ne va jamais juger la valeur d'une vertu selon des critères extérieurs. Une vertu apparemment modeste, hein, apparemment peut-être encore peu affirmée, hein, peu fortifiée, et puis assez humble, hein, concernant une matière plus commune. Eh bien, si elle est pratiquée avec beaucoup de charité, beaucoup de grâce, elle est beaucoup plus précieuse qu'une vertu brillante en apparence. Vous voyez, des actes héroïques, des actes qui se voient. Non, c'est aux yeux de Dieu, c'est l'amour et l'amour seul qui donne sa valeur à la vertu pratiquée. Et c'est la charité qui ordonne toutes les vertus. Donc c'est pas le fait que la vertu soit plus visible, plus remarquable, hein, qui lui donne sa valeur. Non seulement aux yeux des autres, mais même à mes propres yeux. Hein. François de Sales préfère toujours les vertus du cœur, les vertus même cachées, hein, aux vertus qui peuvent toujours flatter un peu l'extérieur et donc qui risquent toujours d'entretenir en nous une certaine vanité, hein, nous porter à la vaine gloire. Et puis surtout, donc pour aller dans le sens de ce que je vous disais, il réprimande, hein, ceux qui pratiquent les vertus de leur choix, quitte même à délaisser leurs charges et leurs devoirs. Et ceux qui préfèrent servir Dieu à leur guise, hein, à la manière qui leur plaît le mieux, plutôt que d'accomplir ce qui plaît à Dieu. Donc là aussi, il y aurait une grande erreur à cultiver des vertus. Je ne sais pas, vous voyez, si vous cultivez le silence des chartreux alors que vous êtes évêque, ce n'est pas une vertu. Parce que l'évêque doit prêcher et se dévouer aux âmes. Hein. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis, quatrième et cinquième partie, je passe très vite, hein, donc toujours de l'introduction à la vie dévote, il va donc présenter ce qu'il appelle les embûches, hein, les tentations que l'âme va rencontrer, et puis comment elle doit s'en démêler. Comme il dit. Et puis enfin, en la cinquième partie, je la fais un peu retirer à part soi pour se rafraîchir, reprendre haleine et réparer ses forces. C'est joli. Voilà, tout par amour et rien par force. Je vous disais, c'est une clé de sa direction spirituelle. Et je pense, personnellement, je pense que c'est peut-être ça qui explique justement la fréquence étonnante, hein, de toutes les images empruntées au monde des oiseaux. Parce que, quelles sont les caractéristiques de l'oiseau? C'est d'abord son vol, hein, la liberté de son vol, hein, savoir au gré du vent, savoir se servir du vent pour voler en utilisant toutes les ressources des courants aériens, etc. Et puis la gratuité du chant de l'oiseau. C'est les deux choses sur lesquelles François va le plus s'appuyer pour prendre ces images dans le monde des volatiles. Alors, j'aurais pu en prendre beaucoup des oiseaux, hein. Je me suis contentée de trois. Le premier qu'il appelle l'apode, hein, c'est-à-dire les oiseaux qui ont des petites pattes très courtes. Et puis ensuite, le pigeon et le rossignol. Mais si vous avez la curiosité de lire François de Sales, vous découvrirez des poules, des aigles, des pélicans, des alouettes, des hirondelles, des colombes, des phénix, des oiseaux de paradis, et j'en oublie encore. Hein. Donc, je n'en ai pris que trois pour illustrer des aspects plus saillants, hein, de la spiritualité de François de Sales. Alors l'apode, donc je vous le disais, c'est celui qui a des petites pattes très courte, hein, des pieds sans force, ce qui fait que tant qu'il est en l'air, il vole très bien. Mais si par hasard il atterrit, hein, pour une raison ou pour une autre, il ne peut jamais redécoller par lui-même. Il faut que le vent, qu'il y ait une première inspiration du vent à laquelle il va prêter la surface de ses ailes pour pouvoir se réenvoler. Il ne peut pas prendre d'élan par lui-même, le pauvre apode. Et François dit, ben voilà, nous autres humains, nous ressemblons aux apodes. S'il nous advient de quitter l'air du saint amour divin, pour prendre terre, nous attacher aux créatures, ce que nous faisons toutes les fois que nous offensons Dieu, eh bien nous mourrons vraiment. Non pas d'une mort si entière qu'il ne nous reste un peu de mouvement, et avec cela des jambes et des pieds, c'est-à-dire quelques menues affections qui nous peuvent faire faire quelques essais d'amour. Je passe parce que le temps, l'heure tourne vite, mais vous aurez le temps de méditer la citation entière par vous-même. Et l'idée, c'est que le péché nous fait tomber à terre, non pas au sens de nous faire périr complètement, mais au sens où nous ne pouvons nous relever qu'avec la grâce de Dieu. Et Dieu nous devance toujours. C'est toute une théologie à travers ce petit exemple tout simple hein, de l'oiseau qui a besoin du vent pour redécoller. C'est une théologie de la liberté et de la grâce. Et nous sommes libres de répondre ou non à ce premier souffle de vent qui nous donne les moyens de nous réenvoler. Dieu souffle, il ne s'impose pas. Mais c'est à nous de répondre à cette première inspiration. Alors ça, il faut se souvenir hein, pour voir un peu la pertinence, de la finesse aussi hein, de ces propos de François de Sales, qui évidemment transparaissent dans de nombreux passages. Hein. Ben, il faut se souvenir évidemment que François, il écrit à une période hein, qui justement est assez ébranlée par les erreurs protestantes, et puis par ce qu'on appelle la querelle du De Auxiliis, hein, qui justement... qui opposait à l'époque principalement les jésuites et les dominicains, hein, sur cette question de la grâce et de la liberté, une question extrêmement délicate. Alors, je passe aux pigeons, pour quand même aller un peu plus vite. On voit que les pigeons, donc ça c'est le degré d'après, vous voyez, pour les âmes qui sont un petit peu, qui ont décollé, hein, qui ont déjà fait quelques avancées dans l'amour divin, on voit que les pigeons, touchés de vanité, se pavanent quelquefois en l'air et font des esplanades, ça et là, se mirant en la variété de leur pénage. Alors les tiercelets et les faucons qui les épient viennent fondre sur eux et les attrapent, ce qu'ils ne feraient jamais si les pigeons volaient leur droit vol, d'autant qu'ils ont l'aile plus raide que les oiseaux de proie. Je ne me prononce pas sur la pertinence scientifique hein, des observations de François de Sales, il y a peut-être des ornithologues parmi vous, bon. En tout cas, ce n'est pas là-dessus qu'on va détailler. Hein. L'idée, hein, c'est la place de la persévérance dans la charité. Il y a eu un premier pas, on a décollé, on est porté par le vent. Mais quel est le danger spirituel qui guette ces petits pigeons ? Eh bien, c'est qu'au lieu de voler tout droit, hein, donc c'est-à-dire de persévérer dans leur résolution, eh bien, touchés de vanité, ils se pavanent, ils vont à droite, à gauche... Hein, ils s'amusent dans la vanité des plaisirs caduques, pour prendre l'expression de François de Sales, et en particulier la complaisance de notre amour propre. Et c'est ça qui fait que les tentations nous attrapent. Tandis que dans les âmes, vous voyez, qui sont persévérantes à voler droit, c'est-à-dire voler là où la charité les porte, hein, dans ce désir de plaire à Dieu, eh bien l'amour ne cesse de grandir. Et quand cet amour ne cesse de grandir, eh bien François de Sales va détailler ça dans le livre 5 hein, du traité de l'amour de Dieu, eh bien cet amour il a un double mouvement. Il va appeler ça un amour de complaisance, hein, qui nous fait jouir de Dieu, qui nous réjouit en Dieu, qui nous rend possesseur de Dieu et possédé par lui, et puis un amour de bienveillance qui nous fait désirer sans cesse d'exalter Dieu, vous voyez, de le louer, de chanter sa louange, de le magnifier, et le magnifier pour ce qu'il est, pour sa beauté, pour sa bonté, et pas seulement pour ses dons. Et ça, c'est le troisième petit oiseau, très intéressant comme exemple, pour passer de la consolation de Dieu au Dieu de la consolation. C'est le rossignol. Je passe le premier extrait par manque de temps, je vous le résume. Le rossignol, c'est un petit oiseau qui se plaît tellement dans son chant qu'il va chanter. François de Sales dit 15 jours et 15 nuits sans s'arrêter, jusqu'à en mourir, hein, jusqu'à ce que son gosier éclate à force de chanter. Ça, c'est la situation de base. Entre parenthèses, il ajoute là que ce pauvre petit rossignol voit qu'il a beau chanter, et même en mourir à force de chanter, il n'épuise jamais la louange due à Dieu. Et là, il va regarder un autre oiseau, qui est l'alouette, en disant, mais l'alouette, plus elle s'élève vers le soleil, plus son chant devient clair, mais si elle continue de s'élever, eh bien, elle n'est pas comme le rossignol à chercher à chanter toujours plus, eh bien, au contraire, son chant va décliner jusqu'à devenir silence. Ah, ça, c'est très très beau. Parce que finalement, la seule louange digne de Dieu, bien, c'est l'adoration silencieuse. François de Sales va dire « Le cœur ravi en admiration chante le cantique du silence sacré. » Ça, c'est l'alouette. Mais pour revenir à ce petit rossignol, donc à la fois François de Sales s'émerveille de cet entrain, de cet enthousiasme, de cette louange incessante du rossignol, mais en même temps il va souligner une réalité négative hein, chez ce rossignol, c'est que les jeunes petits rossignols, donc vous avez ça, s'essayent de chanter au commencement pour imiter les grands, mais étant façonnés et devenus maîtres, ils chantent pour le plaisir qu'ils prennent en leur propre gazouillement et ils s'affectionnent si passionnément à cette délectation, ainsi que je l'ai dit ailleurs, qu'à force de pousser leur voix, leur gosier s'éclate, dont ils meurent. Ainsi nos cœurs, au commencement de leur dévotion, aiment Dieu pour s'unir à lui, lui être agréable et l'imiter en ce qu'il nous a aimés éternellement. Donc vraiment, chanter, louer, aimer Dieu pour lui-même, mais petit à petit, étant instruits et exercés au Saint-Amour, ils prennent imperceptiblement le change, écoutez bien, ça c'est un danger spirituel important, et au lieu d'aimer Dieu pour plaire à Dieu, ils commencent d'aimer pour le plaisir qu'ils ont eux-mêmes dans l'exercice du Saint-Amour. Il y a une petite faute de frappe dans la citation, hein. Pour le plaisir qu'ils ont eux-mêmes dans l'exercice du Saint-Amour. Au lieu qu'ils étaient amoureux de Dieu, ils deviennent amoureux de l'amour qu'ils lui portent. Ils sont affectionnés à leurs affections. Ils ne se plaisent plus en Dieu, mais au plaisir qu'ils ont en son amour. Se contentant en cet amour, en tant qu'il est à eux, qu'il est dans leur esprit et qu'il en procède. Donc vous voyez, on a l'illusion d'aimer Dieu, mais finalement ce que j'aime, ce n'est plus Dieu. C'est l'amour et le plaisir que j'ai à aimer Dieu. Donc c'est un subtil retour sur soi-même hein, qui fait que je ne cherche plus finalement gratuitement à plaire à Dieu pour ce qu'il est, hein, mais je me regarde aimant Dieu. Qui ne voit qu'ainsi faisant, ce n'est plus Dieu que nous cherchons, mais que nous retenons à nous-mêmes, aimant l'amour au lieu d'aimer le bien-aimé. Hein. Alors, quel est le critère pour savoir si on aime Dieu, si on aime plus vraiment Dieu, si on cherche à plaire à Dieu, ou si on aime davantage le plaisir que nous avons à aimer Dieu? Eh bien, François Sade dit, c'est simple. Si ce rossignol mystique chante pour contenter Dieu, donc vraiment pour Dieu, eh bien, il chantera le cantique qu'il saura être le plus agréable à Dieu, à la divine providence. Mais s'il chante pour le plaisir que lui-même prend à la mélodie de son chant, il ne chantera pas le cantique qui est le plus agréable à la bonté céleste, mais celui qui est le plus à son gré de lui-même et duquel il pense tirer plus de plaisir. De deux cantiques qui seront vraiment l'un et l'autre divins, il se peut bien faire, donc les mêmes actes extérieurs, vous allez voir, hein, même action extérieure, il se peut bien faire que l'un sera chanté parce qu'il est divin, donc vraiment plaire à Dieu, et l'autre parce qu'il m'est agréable à moi. Exemple, Ne vois-tu pas, dira-t-on à cet évêque, que Dieu veut que tu chantes le cantique pastoral de sa dilection parmi son troupeau, lequel, en vertu de son saint amour, il te recommande par 3 fois de paître en la personne du grand Saint-Pierre. Tu me répondras qu'à Rome, à Paris, il y a plus de délices spirituels et qu'on peut y pratiquer le divin amour avec plus de suavité. Ô Dieu, ce n'est donc pas pour vous plaire que cet homme, cet évêque, hein, peut chanter, mais c'est pour le plaisir qu'il prend à cela. Vous voyez, il se réjouit, il veut choisir finalement lui-même les moyens, hein, de sa vie spirituelle. Au lieu de chercher à plaire à Dieu, on revient à ce qu'on a vu au début, hein, dans la charge pastorale qui est la sienne. Je prends l'exemple suivant. Les religieux voudraient chanter le cantique des pasteurs et les mariés celui des religieux, afin, se disent-ils, de pouvoir mieux aimer et servir Dieu. Vous vous trompez, mes chers amis. Ne dites pas que c'est pour mieux aimer et servir Dieu. Ô Néni, certes, c'est pour mieux servir votre propre contentement, lequel vous aimez plus que le contentement de Dieu. Ouais, c'est une clé spirituelle importante, hein. Et puis le dernier exemple, mais c'est toujours la même idée, c'est celui qui va abandonner l'oraison quand il se retrouve dans la sécheresse, hein, l'abandonner, ou en tout cas, comme dit François de Sales, ne plus prier qu'en passant, eh bien c'est le signe, dit François de Sales, si c'était Dieu qui l'aimait, pourquoi eût-il cessé de l'aimer puisque Dieu est toujours Dieu? C'était donc la consolation de Dieu qui l'aimait, dans l'oraison, hein, et non pas le Dieu de la consolation. Donc vraiment cette gratuité, hein, de chercher à aimer Dieu pour lui-même, sans se regarder en train de prier, ou sans se regarder en train d'aimer, ou sans s'arrêter au plaisir que nous avons d'aimer Dieu, ou bien à la sécheresse et à l'épreuve quand elle arrive, Dieu lui ne change pas. Et donc le critère, eh bien, c'est si je reste fidèle dans ce devoir d'État, dans cette vie de prière, dans le chemin que Dieu me trace, indépendamment de la satisfaction que j'y trouve ou que je n'y trouve pas, eh bien c'est que mon amour pour Dieu est vrai et est vraiment un amour de Dieu et pas un amour de moi au nom de Dieu. Voilà, je suis déjà obligée de m'arrêter, mais j'espère que vous aurez goûté un petit peu à la fois le réalisme, hein, et la finesse de ce guide spirituel incomparable de François de Sales. Voilà. La semaine prochaine, nous parlerons de la dévotion au Sacré-Cœur.